Léo Ferré répond aujourd'hui à vos questions. Et si vous lui trouvez la voix quelque peu cassée, la voix un peu fatiguée, eh bien, excusez l'interprète, excusez le compositeur, l'auteur des chansons que vous aimez. Cet entretien, je vous le signale, a été réalisé à 3h30 du matin. C'était après le dernier concert que Léo Ferré donnait en Belgique avec l'Orchestre Symphonique de Liège et les chœurs de l'Opéra de la Monnaie. C'est Léo Ferré maintenant qui répond à vos questions.
Léo Ferré, nous avons reçu des auditeurs, beaucoup de témoignages, beaucoup de d'avis qui exprimaient l'admiration des gens jeunes, d'autres moins jeunes. Mais il y a aussi eu des questions, il y a aussi eu des avis, et je vais prendre un peu dans l'ordre, puisque maintenant je vous ai exprimé toute cette admiration des auditeurs, je vais prendre maintenant dans l'ordre d'arriver ce qu'on pourrait considérer comme des questions ou bien tout simplement des situations qu'on vous demande d'apprécier. Vous avez souvent chanté votre désespérance, nous font remarquer certains auditeurs. Est-ce que vous êtes un homme désespéré?
Pas du tout, non, mais je pense que le désespoir, c'est pas permanent, sinon on pourrait pas vivre, on se tuerait. Le désespoir, c'est comme l'espoir, c'est comme le bonheur, c'est une chose qui se pique comme on peut, c'est un hold-up permanent qu'il faut faire parce qu'on n'est pas heureux tout le temps. Et le désespoir n'est pas désespéré tout le temps, sinon ce ne serait pas possible. Cela dit, le désespoir est une forme, pour moi, une forme de vie, peut-être une attitude intellectuelle qui est de rigueur, à mon avis, dans notre époque, qui est difficile et comment dirais-je, à la fois médiocre et somptueuse. Médiocre par les gens qui reçoivent les somptuosités qu'on leur donne. Et quand je parle de somptuosité, je veux parler de toutes les conquêtes extraordinaires de la machine, de la science et peut-être aussi de l'art, mettons.
Mais est-ce que cette désespérance que vous chantez est la seule manière de vous exprimer? Je pense pas.
Non, pas du tout.
Est-ce que c'est une constante dans les appels qu'on a reçus?
Ah oui, c'est ça. Peut-être parce que j'ai écrit beaucoup de choses ces dernières années qui ne sont pas des choses désespérées. Vous savez, c'est difficile de faire comprendre aux gens que ce qu'on écrit vraiment, parce qu'on emploie les mots de tout le monde, et bien entendu, le désespoir, c'est un mot qui est reçu par les gens d'une façon simple et élémentaire, peut-être. Je dis ça par mauvaise part, d'ailleurs. Et dans le désespoir, il y a la beauté de la tristesse, il y a la pluie quand on n'a pas envie, là. Il y a les yeux des gens qui foutent le corps à l'arrière parce qu'ils n'ont pas le temps de vous regarder. Et c'est intéressant quand même. Le désespoir est intéressant à regarder aussi, vous comprenez. Moi, je parle comme artiste, en tant qu'artiste.
C'est pas seulement restrictif, c'est aussi, il y a un aspect dynamique, un aspect constructif.
Non, j'aime pas les choses rigolotes. Les choses rigolotes m'énervent. Ça. Les choses rigolotes, je dis exprès rigolotes. C'est pas beau d'ailleurs, la beauté est triste, donc au fond ça rejoint un peu ce que je pense toujours, et ce que disait Baudelaire, que la beauté est triste.
Un auditeur vous nous demande si vous aimez vraiment Baudelaire, si vous l'avez chanté, je pense que oui, puisque vous avez fait un disque, notamment un long playing, avec des... Et dans les poètes que vous avez chantés, quel est le poète que vous appréciez le plus?
Vous savez, difficile, parce que tous les poètes que j'ai chantés, je les aime tous également, je fais pas de... Je n'aime pas dire que je préfère quelqu'un à un autre. Les gens vous donnent tout ce qu'ils ont. Des fois c'est très bien, des fois c'est moins bien. Mais dans les choses très bien, ben, ils sont tous égaux. Hein? Verlaine, Brimbaud, Baudelaire, pour parler des grands morts, Rudebeuf. Et puis Apollinaire, et puis Aragon. Bon, je n'ai pas de... Peut-être que je pense que le grand mec, c'était tout de même Rimbaud, quoi. Parce qu'il pourrait écrire... c'était un type de 68 qui aurait pu écrire en 68 ce qu'il a écrit.
Et qu'est-ce que vous pensez d'Aragon? Vous venez de l'évoquer. C'est aussi une question.
Aragon, c'est un... je l'aime beaucoup en tant qu'homme. Et puis, il a le vers donné, comme disait Valérie, vous savez. Il chante dans ses vers, quoi. Et c'est un vrai poète. Cela dit, on ne peut pas. C'est difficile de parler de quelqu'un qu'on connaît, hein, et qui est vivant. Je parle plus facilement des grands musiciens, des grands artistes morts, pense que on a décanté comme ça soi-même tout ce qu'il faut décanter. Mais un artiste vivant, il ne restera pas tout de l'artiste que je connais et qui est vivant maintenant, vous comprenez. Et après, c'est pour ça que je dis que la lumière ne se fait que sur la tombe. Et que tout le reste, on s'en fout, quoi.
On nous demande aussi ce que vous pensez, pour toujours garder ce même chapitre, ce que vous pensez d'Hubert Grotekhlas.
Ah,
et de ses œuvres, de ce qu'il fait.
Hubert Grotekhlas, c'est un garçon d'abord que je connais depuis 1959. C'est un des êtres les plus vrais, les plus près de moi que je connaisse. Et c'est très curieux que j'ai en Belgique, comme ça, 3-4 amis. Pourquoi en Belgique? Je sais pas, la Belgique pour moi c'est un pays de transition, je dirais, genre, transit, quoi. J'aime beaucoup la Belgique. Et vous savez, quand on pense que Verlaine et Rimbaud venaient en Belgique, je pense que pour eux ça leur était facile parce que...
Ils disaient beaucoup de mal des Belges.
C'est pas...
Rimbaud en tout cas.
Mal des Belges, mais ils venaient quand même. Ils passaient la frontière et à ce moment-là, c'était facile pour eux. Parce que c'était pas loin de l'endroit où ils étaient. Rimbaud, c'était les Ardennes, bon, françaises. Et le fait de passer une frontière pour un artiste, c'est immédiatement se sentir protégé. Vous savez, parce qu'on n'est plus chez soi et on a l'impression qu'on peut tout faire et qu'on va vous absoudre, en définitive. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être faux ce que je dis. Mais revenons à Grotekhlas. Grotekhlas, il m'a photographié 10 000 fois peut-être. Et il a arrêté ça. Maintenant, il fait une recherche qui, personnellement, me plaît beaucoup. Et ça lui est difficile parce que c'est vraiment nouveau ce qu'il fait. Et il m'est difficile de parler longtemps sur Hubert parce que je l'aime tellement que je suis un peu triste de le quitter et de voir qu'il a cette difficulté à imposer sa nouvelle façon de voir les choses et de les voir en tant que... Maintenant, il les voit en tant que peintre, vous comprenez. Il est parti de la photographie et il fait de la peinture, en définitive. Et moi, je ne suis pas assez près de ça pour lui dire ce que j'en pense, mais de toute façon, je n'ai pas l'œil critique et j'aime beaucoup parce que c'est toujours violent et des couleurs, et c'est simple. Et en tout cas, évidemment, je lui souhaite que ça marche pour lui, qu'il reçoive des appels dans des petits signes de main de ces gens du métier. Et c'est un métier beaucoup plus difficile pour lui que pour moi. Ben, mon métier est plus facile que le sien, par exemple. Parce que n'importe qui peut avoir été photographe. Vous achetez un appareil dans une boutique et puis vous êtes photographe. Les photographes ne sont pas protégés.
On nous demande aussi ce que vous pensez du peintre Sinkovitch qui a illustré, dit notre auditeur, pas mal des pochettes de vos disques.
J'aime beaucoup. Je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, mais de la couleur, parce qu'il est...
Il était influencé par Ferré, peut-être.
Oui, c'est vrai, il est très noir, ce garçon. Ah, lui, c'est un grand chat, c'est un grand chien, c'est un type adorable. Il a un sourire. Et quand je le vois, je suis tranquille avec lui. C'est un garçon qui vient chez moi à la maison. Et il ne bouge plus. Mais c'est sûr, il reste là. Il n'est pas gênant du tout. Je vous dis ça parce qu'il y a tellement de gens envahissants, vous savez, monsieur. Les gens sont envahissants, ils vous prennent, ils vous submergent. Pour ne pas dire submerdent, c'est vrai. Donc quand je reviens à ce que je disais, que c'est très curieux que c'est à noter que j'ai de grands amis, mes grands amis que j'ai maintenant en ce moment, et je n'ai guère plus ailleurs, sont belges. Il y a Grotekhlas, il y a Sinkovitch, il y a son camarade qui est un ouvrier métallurgiste, qui est d'origine calabraise, qui est adorable, qui s'appelle Tony. Et puis il y a ici mes amis, lui que j'appelle le Viking, qui est rouquin, il semble. C'est un Viking d'ailleurs, avec sa petite femme Arlette, et puis la petite fille Eve qui joue avec mon fils quand il vient à la maison. Et le petit chat Mao. Et voilà, ça, tout ça se passe en Belgique, c'est curieux, parce qu'ailleurs, j'ai pas des amis comme ça.
On clore pour l'instant, en tout cas, le chapitre de l'amitié. Alors l'éditeur se pose la question de savoir si vous êtes bien conscient de la responsabilité que vous avez, de votre influence, lorsque vous chantez, lorsque vous propagez ces chansons que vous avez écrites, que vous avez composées.
Oh, sûrement pas, parce que sinon je me poserais trop de questions. Vous savez, lorsque j'écris, je ne pense pas à l'influence que je peux avoir. D'abord, je pense non plus au public que je peux avoir, c'est après. Je me rends compte de l'influence. On parle déjà de l'influence que je peux avoir sur les jeunes esprits, et ça m'embarrasse parce que d'abord ça me met sur un plan vertigineux en définitive, sur lequel je peux habituer à être et je ne veux pas être. Et bien sûr, on me dit des choses et c'est très embêtant pour moi cette histoire, vous savez. Vous avez touché à une raison de vivre difficilement dans ce que je fais. La personne qui m'a posé cette question a très bien fait de me la poser. C'est que je ne me rends pas compte, je ne me pose jamais la question, et si je me rendais compte, si je me posais la question, je pense que je ne pourrais pas écrire librement, n'est-ce pas? Je ne pense jamais à une influence possible. C'est pour ça que je suis contre le fait qu'on me dise que j'envoie des messages, n'est-ce pas? Quand on dit un message, je dis, il y a le facteur qui vous apporte des messages, il y a le ministre qui fait des messages lorsque il signe un arrêté ministériel, c'est un message, le téléphone, c'est un message, le télégramme. Mais c'est difficile. Vous savez, c'est important parce que tout ça vient des moyens d'expression actuels et avec le disque et avec la musique. Et il est bien évident qu'on a une influence sur des gens comme ça et qu'on ne connaît pas, dont on sait qu'ils sont peut-être quelque part ce soir, et en mettant un disque sur le plateau de leur chaîne pour écouter le disque, il est évident que je ne peux pas mesurer l'énormité du propos quand je pense que je peux avoir de l'influence et que je peux faire peut-être penser trop les gens et les rendre nostalgiques ou mélancoliques ou peut-être malades, n'est-ce pas? Et c'est une chose qui est importante parce que, dont je ne me rends pas compte, j'ai un exemple vivant ici en Belgique, où une personne que je connais, dont je connais le père et la mère, et qui m'a poursuivi ici d'une façon terrible et incessante. Enfin, je ne m'attendais pas à ça, et qui me menaçait, qui est devenu tout d'un coup vulgaire, et qui m'a dit... je te veux, je veux ça, je veux Léo. Et c'était pas Léo tel que je suis qu'elle pensait cette personne. C'était peut-être à celui qui a écrit des choses qui l'ont impressionné. Il y a longtemps qu'elle m'écoute, je pense. Et qui, elle m'a investi, elle a pris fait et cause pour moi et pour elle en même temps. Et peut-être que ça l'a détraqué. C'est très, très triste.
Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous vous sentez indépendant dans la mesure où vous chantez dans des salles diverses, devant des publics divers? Est-ce que vous avez le choix de ces salles? Nous demande un auditeur, est-ce que vous avez le choix de ces publics?
Non.
Est-ce que vous gardez un contrôle de ces publics et de ces salles?
Non, pas du tout, je ne pourrais pas garder un contrôle des publics. En tout cas, les salles diffèrent d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. On ne veut pas savoir.
Vous faites par exemple le reproche de chanter pour, c'était le cas mercredi soir, pour Europalia, une association financée par la bourgeoisie, par la finance, par la haute finance, de vous compromettre dans cela.
Ah, 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 ah. Je vous remercie de me poser cette question. Quand je suis arrivé en Belgique, où j'étais invité par la ville de Liège, et qui m'a mis l'orchestre à ma disposition il y a un an sur un coup de téléphone, ce qui a été pour moi une affaire extraordinaire. Je savais que je devais chanter d'abord à Liège, à Charleroi, puis à Mons, et puis peut-être à Anvers, enfin. Et puis en définitive, il est resté 3 jours, donc Liège et Charleroi. Et l'avant-veille d'arriver ici en Belgique, j'ai reçu une lettre, un coup de téléphone, d'un garçon belge que je connais ici, qui est un comédien, qui dirige des théâtres de culture, enfin. C'est une personne qui a beaucoup de difficultés d'ailleurs à faire ce qu'il fait parce que qui n'est pas tellement aidé. Il m'a dit, tu travailles pour Europalia. Je lui dis, qu'est-ce que c'est Europalia? D'abord, j'ai pas bien compris ce que ça voulait. Je pense que c'est Alliance Européenne, hein? Bon, il me semble. Europalia dit, je ne suis pas au courant. Voilà ce qui s'est passé en Belgique pour essayer, pour avoir Bruxelles. Comme c'est le temps d'Europalia, je vous signale que je ne sais pas ce que c'est qu'Europalia. Ils ont vendu le spectacle qui ne leur coûtait pas tellement cher à une entreprise de spectacle qui, ce soir, je pense, a gagné beaucoup d'argent sur mon dos. Et je l'ignorais. Je n'ai rien dit parce que je suis un garçon poli et je ne suis absolument pas d'accord. Moi, Europalia, je ne connais pas.
Et nous restons dans les affaires puisqu'on vous demande ce que vous pensez de la chanson dite commerciale.
Oh, je ne sais pas, vous savez, c'est un mot qu'on ne va pas associer à ce genre de choses. Bon, la chanson dite commerciale, pour moi, c'est le dentifrice. Bon, c'est le... D'ailleurs, c'est très curieux parce que vous pensez à tube. Un jour, je cherchais l'origine du mot tube et j'ai pensé à dentifrice. Bon, je me disais, ça va être ça, quoi. Bon, la chanson commerciale, je ne sais pas, moi... La 9e service, c'est commercial. Tristan, c'est commercial, non? C'est extraordinaire. Verdi, c'est commercial. Qu'est-ce que ça veut dire, commercial?
Je suppose que l'auditeur veut sous-entendre la chansonnette.
La chansonnette. Sonorique. Oui, la chansonnette. Alors, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne veux pas connaître. Ça m'est imposé de temps en temps, parce que moi, je suis comme tout le monde, je regarde à la télévision, et je vois des choses, qui sont partagées, je ne sais pas, abominables. Enfin, ce sont des gens qui font du commerce avec, comme on fait du commerce avec des clous, avec des capotes anglaises, enfin, je sais pas, des pilules, je sais pas.
À quoi attribuez-vous le succès de Brassens?
Je ne sais pas à quoi attribuer le succès de Brassens. Brassens, il existe quand même, et puis il a du succès, parce que il écrit dans une langue particulière, d'abord, à mon avis. Parce que c'est un personnage qui a une présence à lui, avec sa belle tête, sa grosse moustache, qui a une façon de chanter à lui. Et puis en plus avec ce qu'il dit, et c'est un type qui a des idées très généreuses.
J'ai vu, nous dit une auditrice qui, je ne veux pas préjuger, mais qui ne me paraît pas être toute jeune. J'ai vu trois récitals de Léo Ferré. J'ai vu Léo Ferré chanter Franco la Muerte, et j'étais très troublé, très bouleversé par cette chanson. N'avez-vous pas l'impression, dit-elle, que ces dernières années, Léo Ferré s'est consacré à des créations plus cérébrales? N'est-il pas un devoir pour lui de continuer dans la voie de cette chanson Franco la Muerte? Est-ce qu'il ne se sent pas responsable dans ce sens?
Ça me fait rigoler, moi, ça. Parce que Franco la Muerte, ça a servi pas à grand-chose, cette chanson. Il vit toujours. Il vit, Franco. Et il tue les gens, il continue. Alors, vous savez, Franco la Muerte, ce type qui est au pouvoir depuis bientôt 40 ans, il ne s'est pas trouvé quelqu'un qui puisse le descendre. Hein? En 40 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a pu descendre Franco. On fait des trucs formidables, des prises d'otages. Je disais dernièrement à quelqu'un, je dis, il y aurait un moyen de sur des années, de descendre Franco. Par exemple, 10 jeunes gens rentrent au séminaire. Une année, en 1950. Ils restent au séminaire 6 ans, 7 ans. Ils sortent prêtres. Avec l'idée préconçue et arrêtée d'aller descendre un jour Franco. En tant que prêtre. Pourquoi? Parce que personne n'a pensé à ça. Si Franco est vivant, c'est que les Espagnols, la plupart des Espagnols vivants en ce moment en Espagne, sont pour Franco. Et les meilleurs des Espagnols sont en tôle, en Espagne, ou exilés en France, notamment les anarchistes. Alors, vous comprenez, moi, je ne suis pas espagnol. J'estime que, un jour, j'ai écrit Franco la Muerte, parce que ça partait du cœur, que je ne vais pas en Espagne. J'ai une femme espagnole. Je ne vais pas en Espagne parce que j'ai dit que je pourrais rentrer dans ce pays, que lorsque ce type ne vivra plus, sera nettement assassiné, quoi. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De plus, je ne vais pas en Espagne parce que, même si je n'ai pas envie, comme ça me dégoûte. Alors Franco la Muerte, j'estime qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait des chansons comme moi, Franco la Muerte, comme ça en 10 ans, ou je ne sais pas, j'écris ça en 64. Je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir écrit, il ne faut pas m'emmerder avec le reste.
Avez-vous beaucoup souffert, nous demande une auditrice, Est-ce que vous avez souffert autant que le laisse supposer le ton parfois désespéré de vos chansons?
Oh, c'est, on souffre tous. Moi, vous savez, on n'a pas le droit de dire qu'on souffre parce que ça ne regarde personne. Moi, ce qui transparaît à travers mes textes, c'est parce que, bien sûr, des fois, ça part malgré moi. Les choses que j'ai vécues qui sont qui ont été malheureuses, ben, ça ne regarde personne. Et puis, c'est moi qui les ai assumées, comme on dit aujourd'hui. Ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Cela dit, ça passe dans mes textes quand je suis comme ça, parce que je suis un artiste, et puis, comme ça, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du public, et du public belge en particulier ? C'est encore une question.
Ah, le public belge, pour moi, ça n'a jamais fait aucune différence. Moi, j'ai toujours été très bien accueilli en Belgique, sauf par les journalistes.
Vous avez pourtant dit un jour que vous ne viendriez plus chanter en Belgique.
Et pourquoi ? Je ne me rappelle plus. Rappelez-moi ça.
C'est un article, ce sont des articles de journaux qui ont... Ah. Vous avez même fait un petit commentaire à propos de la personne qui organisait vos tournées en Belgique à l'époque, Joe Dickmin.
C'est un garçon qui avait un talent considérable, qui était un meneur, qui était un animateur, mais un vrai. Je le comparais un peu. Il avait l'intelligence et le savoir-faire. Il n'avait pas l'accent de Diaghilev. Un grand sou quand même. Et c'est un type qui était venu un jour me voir, il avait 18 ans. J'habitais à Paris, maintenant où il y a une rue à la place de la maison où j'étais. Et d'ailleurs, cette maison où j'étais, qui est tout près du Palais des Congrès, à la porte Maillot. Et je vais ouvrir la porte, je vois ce grand diablasse, parce qu'il est grand et mince, dès que hein. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, voilà, j'ai un cabaret en Belgique qui s'appelle La Poubelle, est-ce que vous voulez venir? C'était en 1952, peut-être 50. Alors je dis, oui, je viendrai. Alors je suis venu à son cabaret qui s'appelait La Poubelle, et c'était très, très drôle d'ailleurs, c'était très amical, très fraternel. Et après, j'ai travaillé longtemps avec lui, il a eu un peu un cabaret place de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la grande place de Bruxelles, là où il y a ces grands bâtiments dorés un peu. Et je suis allé chez lui, et après il a fait le Théâtre 140. Le Théâtre 140, ça a été une entreprise considérable pour lui, parce qu'il a fait venir des gens. Il allait chercher les gens. Non, c'était un découvreur, Dickmin. Je dis c'était. Dickmin, c'est un bureau, quoi. Hein. Il m'a fait des choses pénibles. Il est venu un soir à Forest où je chantais. Il avait été, quand j'avais été la dernière fois au Théâtre 140, il y avait un journaliste qui s'appelle Drossard, du journal Le Soir, qui me tient dans l'estime que vous savez, ce journal, et qui m'a dit, qui a écrit un article abominable, et Dickmin m'a dit après, ah oui, je dirais, je suis pas content, c'est l'ami, je le connais bien, puis je lui dirais. Et à quelques temps de là, je me promenais dans Bruxelles, et j'ai vu un soir un type qui m'a tendu la main, un grand mec avec une femme dans la rue, la petite rue des Boucheries, je sais plus comment ça s'appelle, on allait manger les spaghettis quand on avait longtemps travaillé, le soir. Et ce type me dit, mais il me tend la main, et puis il me dit, je m'appelle Drossard, j'ai la mémoire pour ce genre de choses. Je lui dis, pourquoi vous venez me serrer la main, monsieur? Vous venez me serrer la main ici, pourquoi? Parce que vous faire bien la gonzesse avec qui vous êtes, pour lui dire, après, tu vois, je connais Ferré, qu'est-ce que je suis, moi? Pour qui vous prenez-vous? C'est des malheureux, des mecs dégueulasses, non? Et alors, ce type, il a amené Dickmin l'a amené à Forest, parce que j'avais fait un truc, et Dickmin avait dit, voulait me faire aller au Théâtre 140, il avait dit, je signe pas de contrat, moi je signais jamais de contrat, je suis toujours signé des contrats avec Dickmin. Bon, et il avait dit à Richard Marsan, qui se travaille à Paris, on signe jamais de contrat avec Léo, parce que Richard lui avait dit, tu sais, il n'aura pas Léo, parce que les conditions que tu lui proposes, etc. Moi, il voulait jamais m'augmenter, j'avais bien voulu longtemps, et puis je lui ai demandé, enfin, je lui ai dit à Richard, tout de même, enfin quand même, qui met un peu, il est subventionné par l'église, ce mec, hein. Bon, bah, il n'a qu'à payer les curés, hein. Ça me fait de la peine parce que c'est un type qui... Et puis, je pense, ça me fait pas de la peine, parce que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Un beau jour, ils tombent kazakh, et bien s'ils tombent kazakh, c'est une kazakh à retourner.
Est-ce que vous avez écrit un livre?
Qui, moi? Un livre? Bon, je sais pas, non, j'écris Bonhomme Misère. Voilà, c'est tout.
C'est une auditrice qui pose cette question.
Oui, c'est un peu l'histoire de mon enfance, un peu arrangée. Je ne suis pas un écrivain. D'ailleurs, on se défend bien de dire que je suis un écrivain. Moi, je suis à peine un musicien quand j'ai le temps de l'être. Et la passion, parce que je l'ai en ce moment. Mais je n'ai pas aidé dans ce métier. On n'est pas aidé. On est aidé par le public. Les gens qui sont entre nous et le public, c'est vraiment, sont vraiment des malheureux. Et de temps en temps, on trouve un type pas mal. Alors ça rachète de bien des choses.
Est-ce que c'est votre vrai nom, Léo Ferré?
Léo Ferré, né le 24 août 1916 à Monte-Carlo, 9 avenue Saint-Michel, principauté de Monaco. Ma reine s'appelait Léa, c'est pour ça qu'on m'a appelé Léo Ferré, F-E-2-R et accent aigu.
On vous a dit souvent que vous étiez cabotin, c'est un reproche qu'on vous a fait parfois. Est-ce que comment le ressentez-vous ce reproche?
Cabotin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cabotin, c'est un sale mot. Je m'en fous. Vous savez, un jour, j'avais un chien à l'Olympia, un gros chien Saint-Bernard. Alors un journaliste, un critique, il disait, on ne sait pas lequel des deux est le plus cabot que l'autre. C'était con. Hein. Et vous savez, le cabotinage, c'est une façon de s'offrir. Et de pouvoir s'offrir sur une scène. C'est un type qui n'est pas cabotin, cabot, et puis il peut pas faire le métier que je fais. Qu'est-ce que c'est que là? C'est une qualité d'être cabot, vous savez. C'est difficile de rentrer sur une scène devant 3 ou 4 000 personnes et de rester pendant 2 heures. C'est très difficile. Et qu'il faut faire pour ça? Mais il ne faut pas être comme tout le monde. Donc il faut être cabot. Mais de ces cabots qu'on vient regarder longtemps et puis qui font plaisir aux gens et qui font penser les gens, dont on dit même qu'ils sont désespérés. À qui on dit même, vous avez la responsabilité de faire penser des jeunes comme ça. C'est ça les cabots. Alors je suis un immense cabot.
Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous pensez être hors du système de business habituel? Est-ce que vous voyez un autre système de spectacle?
Je ne sais pas dire, parce que le système de show business, c'est un mot qui est importé, quoi. Ça existait en Amérique en 1920. Et le show business, c'est le business, le monde des affaires, les affaires du spectacle. C'est fait par les gens qui font des affaires. C'est jamais les artistes qui font les affaires. Ce sont les gens qui travaillent sur notre dos qui font des affaires. Ben, des fois, il y a des gens qui se défendent, des artistes qui sont avertis, qui sont plus malins, qui sont plus intelligents, et qui se défendent mieux. Alors cela font partie de ce qu'on appelle le show business, parce que c'est un métier qui comporte de grands risques, souvent de grands risques. Un producteur, des fois, dépense beaucoup d'argent pour imposer quelque chose. Ça aussi, c'est le show business. Des fois, il perd cet argent. Il ne perd jamais avec le sourire, et sûrement pas pour faire plaisir à l'artiste. Parce que dans la tête d'un producteur, il y a toujours l'idée de gagner de l'argent sur le dos de l'artiste. Cela dit, c'est indispensable, le producteur. J'en connais de bons, j'en connais un actuellement, un type honnête, pas mal, qui pense à tout et qui prend des risques. Et je pense que si ce type qui travaille avec moi a gagné beaucoup d'argent, je serais très content. Parce que il aura fait tout ce qu'il fallait pour ça, mais dans le bon sens.
Vous m'en trop de définir trois mots, amitié, amour, bonheur.
Oh.
Amitié.
Amitié, c'est l'amour. Et définir l'amour, c'est le don, c'est donner. Et le bonheur, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se vole. L'amour, ça tient debout les gens. Ça doit tenir debout les gens. Je pense que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas savoir.
Je pense que les gens vivent courbés un peu malgré eux. Et quand on est courbé, on n'a pas le temps de penser à l'amour. On regarde par terre. C'est embêtant tout ça, vous savez, de parler de tout ça. L'amitié, c'est... J'aime pas ce mot-là. Pour moi, ça n'existe pas. C'est l'amour, quoi. L'amour qui se prolonge. L'amour, c'est pas forcément dormir dans le lit avec une dame. L'amour, c'est... C'est des fois un éclair dans l'œil, c'est une larme au coin des yeux pour une chose petite, anodine, pour rien, quoi. C'est difficile, on ne peut pas parler de ça. L'amitié, l'amour, le bonheur, ça se fait, ça se fabrique. Une femme qui a entendu ce que vous nous avez dit le lundi, fait cette remarque, elle a retenu ceci: je n'aime pas les femmes savantes, a-t-il y offéré. Pour moi, dit-elle, les femmes savantes, ce sont les scientifiques, c'est Marie Curie, c'est Françoise Clostre, C'est une ethnologue. Je ne vois pas pourquoi, dit-elle, il n'aimerait pas ces femmes-là. S'il a voulu parler des femmes savantes au niveau des précieuses et des snobards, je me demande si ce n'est pas là une réaction éducationnelle, car les snobards et les snobards, les précieux et les précieuses, c'est la même chose. Je ne pense pas que la connerie est un sexe.
Non, mais tout ça, c'est mal pris, vous savez. Ce que j'aime pas, c'est les intellectuels. J'ai vécu avec des intellectuels. J'ai vécu avec une intellectuelle. Enfin, quoi, entre guillemets, intellectuel, que ça veut dire. Je vis actuellement avec ma femme qui ne sait pratiquement pas qui est Ruth Boeuf. Comme ma mère ne savait pas qu'elle n'était pas été à l'école. Comme mon père ne savait pas qu'elle n'était pas été à l'école. Je ne sais pas qui est Villon. C'est moi qui lui apprends. Et c'est très bien. Quand je rentre chez moi, chez mon piano, personne ne rentre. Personne ne rentre dans ma tête. On me respecte. Lorsque mon fils rentre, de là où je suis avec mon piano, il me dit « Papa, je ne te dérange pas. Il a 5 ans. » Alors vous comprenez les intellectuels. Je ne vais pas parler des scientifiques. Vous comprenez, bon, le scientifique, voilà, curieux, ça, c'est très bien. Quoi, mais je ne vais pas parler de ces femmes-là.
Oui, vous avez eu pendant longtemps un pianiste aveugle nous fait remarquer une dame. Est-ce que Popol, je pense que c'est comme ça que vous l'appeliez, est-ce que vous avez choisi Popol parce que c'était un très bon pianiste ou parce que c'était un pianiste aveugle? Quel a été, parce que vous aviez une grande amitié pour lui?
Ah, mais si vous savez, madame, si vous dites aussi je choisis un pianiste, parce qu'il était aveugle, il faudra faire le ménage dans votre tête. Cela dit, je suis resté longtemps, plutôt il est resté longtemps avec moi puisqu'il m'a quitté, parce que c'est un type très intelligent. Voilà.
Est-ce que vous pourriez décrire l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez créé la chanson « Son style » ?
Ton style.
Ton style, pardon.
Ah, vous savez, c'était une chanson que je n'aurais pas écrite si je n'avais pas eu fait une musique de film pour un metteur en scène un peu comme ça. Pas très correct. C'est pas un homme, ce mec. Il s'appelle Moki. Il m'a demandé une musique et puis après, j'ai fait de la musique et puis il m'a traité comme si j'avais été le dernier des balayeurs du matin. Et alors il m'est resté sur les bras une musique tout orchestrée. Je suis entré chez moi, j'écoutais cette bande, j'ai dit mais enfin c'est perdu tout ça. Et j'ai fait cette chanson sur la musique. C'est-à-dire que je n'aurais jamais écrit ton style, c'est ton cul. Si j'avais pas eu cette musique toute faite. Et vous savez, dernièrement, j'étais dans un hôtel à Paris, et il y avait un type que je connaissais, qui avait une femme, enfin je les connaissais bien, il y avait du monde dans le hall, et cette fille, je lui ai dit, madame, papa, madame, je crois que, je sais pas si je la tutoyais, je lui ai dit, vous avez un beau cul, tu as un beau cul, comme je lui ai dit, tu as de beaux yeux. Et cette femme était ravie. Hein? D'ailleurs, c'est un mot qu'on peut employer maintenant, étant donné ce qu'on m'a dit, ce que j'hésite encore à croire, que les films porno, maintenant, ça soit facile partout. Alors, moi, ça m'arrange parce que je peux dire cul, con, merde, et que personne ne peut rien dire, vous comprenez? Ah, vraiment, alors ça, le jour où on va me dire que je parle mal, je vais envoyer les gens au cinéma. Hein?
Vous aimez les animaux, c'est une chose bien connue, mais il y a deux types d'animaux, si l'on peut dire, que vous semblez, pour lesquels vous semblez avoir une affection particulière, c'est le hibou et le chien. Et l'auditeur qui pose cette question se demande pourquoi.
Le hibou, parce que c'est un oiseau qui a été longtemps tenu à l'écart, que les paysans clouaient sur les portes, parce que les paysans, c'est pas toujours drôle. Vous savez qu'autrefois, lorsqu'ils prenaient des hiboux, ils les clouaient sur les portes, parce que soi-disant, le hibou portait malheur. Tout ça a changé. Je ne sais pas, depuis quelques années, partout, on voit des céramiques, des hiboux, des cendriers, des hiboux, des petits bijoux, des hiboux. Et ça a fortement changé, et heureusement changé, je trouve, heureusement. Et j'ai eu un hibou pendant 2 mois, il y a quelques années. Et j'ai eu beaucoup d'amitié pour ce petit être. C'est très beau. Ça a des yeux extraordinaires. Enfin, j'apprends rien à personne en disant ça. Et c'est un personnage de la nuit. Et lorsque Ce hibou était mort un matin à 14 du matin, il y a longtemps aussi, il était venu mourir sur mon épaule. Et je me suis levé, j'avais fait une chanson, je l'ai faite, j'avais fait le soir, enfin je savais que c'est celui qui me faisait plaisir, ce petit, et qui s'appelle Les Copains de la Neige. J'ai écrit la musique et je l'ai entouré de papier de musique et je l'ai enterré. Et deux mois après, j'ai été déterré pour voir ce qui restait. J'ai trouvé une plume. La terre avait bouffé tout, y compris le papier et la musique, bien sûr. Sauf une plume. C'est une raison pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié fraternelle pour les hiboux. Quant au chien, c'est le personnage tabou que l'on connaît. On admet dans notre société que les chiens et les chats, bien sûr. Et le chien, je sais pas, j'en ai eu beaucoup, et c'est la fidélité, quoi. C'est aussi un lieu commun. C'est l'œil qui regarde tout le temps. J'ai un chien en ce moment que j'ai été prendre en Suisse l'année dernière. C'est un chien policier que j'ai voulu faire dresser, puis c'est une connerie, parce que ça rime à rien. Ce chien ne me quitte jamais de l'œil. Il agresse les autres parce qu'il est jaloux. Mais il est tout le temps comme ça. Alors que ça, avec ses pattes comme ça, avec sa tête, il est tout le temps comme ça. Toujours extraordinaire. Ça ne parle pas à un chien. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime vivre avec un chien. Puis avec un chien, on n'est pas seul. On n'est jamais seul avec un chien. C'est important. Je connais un anard, un vrai, qui ne voit personne, surtout pas des anards, qui vit dans le sud de la France, qui a le sourire et un chien.
Est-ce que vous prenez pour un poète maudit?
Oh, tous les poètes sont maudits. La malédiction, c'est une façon de vivre en dehors des contraintes courantes. Et ce qui emmerde le monde, c'est ça. Parce que les poètes maudits sont, ou les artistes maudits sont dans la marge, et puis regardent le texte comme ça. Et voilà. Alors ceux qui sont dans le texte, ils aiment pas ceux qui sont dans la marge. Alors la marge est maudite, forcément, quoi.
Je ne sais pas comment vous allez réagir à cette question. On vous demande ce que vous pensez du docteur Schweitzer.
Moi, je ne connais pas. C'est un organiste.
Alors, je voudrais terminer par celle-ci. C'est l'avis, en tout cas, d'un auditeur. Je considère, dit-il, Léo Ferré comme un philosophe de la chanson. Est-ce que vous vous situez aussi dans cet ordre?
Oh, ça ne veut rien dire, ça. Philosophe de la chanson. Puis le mot philosophe ne veut rien dire. Mettons que je sois, on me ferait plaisir, monsieur, qui m'avait posé cette question en pensant que je suis peut-être aussi un homme.
C'était Léo Ferré, de face et de profil. La semaine prochaine, nous accueillerons à ce micro Jacques Chancel. Et voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés avec attention, du moins je l'espère, et vous donne rendez-vous jusqu'à 12h30 pour le sel sur la queue. A tout à l'heure.